Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raison gardée, l'émission proposée par les Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui récemment a occupé un tout petit peu l'actualité locale. Connaissez-vous l'artiste plasticienne Emmanuelle de Rosa ? À travers ses créations et en particulier en détournant des crucifix, elle exprime un regard très critique et très humoristique sur notre société moderne et surtout ses défauts. La dénonciation de notre matérialisme et puis des valeurs du monde libéral oriente toute son œuvre. Elle propose aussi, par exemple, une série que j'ai trouvée très amusante, une série sur les péchés capitaux, où la tête de Jésus sur le crucifix est remplacée par celle de Picsou pour l'avarice, ou celle de Gaston Lagaffe pour la paresse, ou encore Jules César, tel qu'il apparaît dans les albums d'Astérix, pour représenter l'orgueil. Elle a eu l'occasion de faire une exposition, Monstre sacré, dans une MJC de Nancy. Cette exposition a attiré bien des amateurs d'art, qui sont aussi amateurs d'humour, irrévérencieux et de satire. Mais elle a aussi suscité des réactions chez quelques croyants très très sourcilleux et peu enclins à accepter cette libre expression artistique, du moins déterminés à réagir un peu. Alors on a vu un soir quelques individus qui s'étaient au préalable manifestés par des courriels parfois au ton peu agréable, venir s'agenouiller aux portes de l'exposition pour prier pour l'âme de l'artiste et de ceux qui lui avaient offert une telle tribune. Blasphème, blasphème, disent-ils. Voilà le mot qui va nous intéresser aujourd'hui et la question qui va nous intéresser aujourd'hui du droit avec des guillemets au blasphème ou pas. L'affaire ici se solde sans heurts, bien heureusement pour tous. Mais ce mot blasphème, on l'avait réentendu souvent dans des circonstances bien plus tragiques. Lors de l'attaque de Charlie Hebdo et après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo qui, en éducation civique, travaillait justement sur des caricatures, entre autres tirées de Charlie Hebdo. Alors qu'est-ce que le blasphème ? Quand était-il considéré comme un crime ? Que dit la loi aujourd'hui ? C'est le questionnement que nous vous proposons dans Raison gardée. Et pour bien commencer, on va écouter une petite ronde des jurons, chanson de Brassens, reprise par Alexis HK.
Voici la ronde des jurons qui chantaient clair, qui dansaient rond. Quand les Gaulois, de bonne alloi, du franc parler suivaient la loi. Jurant par là, jurant par ci, jurant ta langue raccourcie. Comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi par bleu que les jarnies bleues et les pâles sans bleu. Tous les Christies, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi par dit que les sapristies et les sacristies. Sans oublier les jarnies cotons, les scrogneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom. Les pestes, poids, diantre, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et sa perlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé, les harengères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi par bleu que les jarnies bleues et les pâles sans bleu. Tous les Christies, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi par dit que les sapristies et les sacristies. Sans oublier les jarnies cotons, les scrogneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes, poids, diantre, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et sa perlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes que Dieu. Mais essayons à présent de réadapter quelque peu ce texte de façon plus contemporaine. Tous les bâtards, tous les enfoirés, les gros crevards et les petites bites, ainsi par dit, que les gros pourris et les abrutis.
Une ronde des jurons de Georges Brassens, en reprise donc par Alexis HK. Et oui, parce que les jurons étaient des déformations notamment du nom de Dieu. Parce qu'on rappelle quand même que le troisième des 10 commandements dans la Bible, c'est « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Et c'est même avant le commandement qui dit « Tu ne tueras point », qui n'est qu'en septième position. Alors dans cette petite chanson, je regardais, on a entendu... on a entendu Corne Gidouille, mais Corne Gidouille, c'est un juron inventé par Jarry pour sa pièce Ubu Roi. Ubu qui dit aussi souvent « Par ma chandelle verte ». Mais les autres jurons, effectivement, sont bien connus. On a « Ventre bleu » pour dire « Par le ventre de Dieu »,« Par bleu ». Pour ne pas dire par Dieu. Et en fait, très souvent, les jurons avec bleu étaient là. Le mot bleu était là pour remplacer le nom de Dieu. Jarny bleu, c'est en fait une. Alors, c'est un blasphème de péché mortel, hein, attention. Hein. Et cela veut dire je renie Dieu, Jarny bleu. Pas le sang bleu, par le sang de Dieu. Ou Christi pour dire le Christ. Ou encore, dans la chanson, on a entendu ventre saint gris, qui est un euphémisme pour dire. Ventre bleu, qui serait lui-même donc l'euphémisme pour ventre Dieu. Et puis on attribue aussi ce juron à Henri IV. C'est pour ça que ce juron-là est un petit peu connu. Alors maintenant, on repasse à une petite définition quand même de cette notion de blasphème. Alors un blasphème, nous dit le dictionnaire, c'est une parole, un discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion et de tout ce qui est considéré comme sacré. Le mot existe déjà en latin, blasphémia, blasphème, diffamation, et il est emprunté au grec. On retrouve en fait un verbe grec, blaptein, qui veut dire nuire, léser, et fémé, qui veut dire la réputation, qui est très proche aussi du mot latin fama, qui a le même sens de réputation. Dans son sens un peu moins strict, le blasphème, c'est aussi une injure envers ce qui est sacré de manière très générale, hein, pas forcément la divinité. Et la notion de blasphème a été définie au sens strict et religieux hein, au XVIe siècle par un théologien espagnol, Francisco Suarez, qui déclare que le blasphème est toute parole de malédiction, reproche ou irrespect prononcée contre Dieu. Les blasphèmes donc, consistent en paroles et se distinguent des sacrilèges qui sont des actes de profanation de ce qui est sacré. Par extension, il nous arrive de dire, souvent sur le ton de la plaisanterie, blasphème pour un propos qu'on juge un peu indécent ou déplacé à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas forcément religieux mais qu'on considère comme particulièrement respectable et inviolable. Savez-vous que la musique a pu être considérée comme blasphématoire ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce que dit la définition en effet, en matière de musique, il a existé une forme de blasphème. Et notamment en Occident, le premier exemple de blasphème musical en quelque sorte, c'est la carte augmentée. Un intervalle composé de 3 tons appelé « diabolicus in musica ». Alors... peut-être cela peut vous paraître étrange, mais vous souvenez sans doute d'un épisode de Kaamelott, la série créée par Alexandre Astier, qui illustrait justement très plaisamment cette question de blasphème musical. On écoute.
Bort, une basse s'il vous plaît.
Oh.
Oui, parfait. Donc sire, vous allez chanter la même note que Bort.
Oh.
Très bien, c'est ce qu'on appelle un...
unisson.
Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure.
Oh.
Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte.
Oh.
Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Unisson, carte, quinte, et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Le prochain que je chope en train de siffler à l'intervalle païen, je fais un rapport au pape.
Mais enfin, Père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces?
Ça me fait gerber.
Sire, faites une tierce.
Ah non, vous faites une tierce, je me tire.
Majeur ou mineur?
Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là? Majeur, mineur, mais c'est pour les dégénérer. Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste.
Mineur.
Oh.
Oh mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Je vous préviens que si on ne met pas l'euro, là tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué.
Il faut plutôt voir ça comme une évolution.
Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout.
Sire, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Sinon, moi, toujours des quartes, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps.
Diminué ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?
Borte, une pédale ? Enfin, je veux dire.
Il n'y a pas de mal.
Diabolus !
Eh oui, Diabolus. Dans un ouvrage sur les chansons censurées, coécrit par Aurélie Sfez et Emmanuel Pierrat, il est dit, justement à propos de ces histoires de cartes, de mineurs, etc., que parce que l'effet produit était jugé irrésolu, grinçant et strident, on apparentait cette musique à une forme de magie noire, et donc c'est à ce titre qu'elle était condamnée. Diabolicus, donc, que ce jeu musical. Alors, depuis le XIVe siècle en France, de nombreux textes royaux avaient été édités contre le blasphème, très étroitement liés d'ailleurs ces textes à la notion de lèse-majesté. Le délit de blasphème sera aboli par l'Assemblée constituante en 1791, à la suite d'un combat mené notamment par Voltaire et d'autres penseurs des Lumières à propos du malheureux chevalier de la Barre, qui est une histoire très marquante en France, qui a été le dernier condamné pour blasphème. Alors je rappelle un petit peu ce qu'est cette histoire du chevalier de la Barre. Le 1er juillet 1766 à Abbeville, François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, descendant d'une famille de parlementaires, est décapité à l'âge de 21 ans après avoir subi plusieurs supplices et son corps est jeté au bûcher. Il n'est pas condamné pour trahison, ce qui était arrivé la même année à Paris à Lalith Hollandal. Il n'est pas jugé pour parricide, comme ça avait été le cas un peu plus tôt sur cette même place d'Abbeville. Il n'est pas condamné pour tentative de régicide, c'est ce qui est arrivé à Damiens en 1757, place de Grève, et qui avait subi des châtiments assez proches. Non, il est condamné à mort par les juges d'Abbeville pour ne pas avoir ôté son chapeau, ni s'être agenouillé au passage d'une procession. On l'accuse aussi d'avoir chanté des chansons de corps de garde, dans lesquelles les jurons, bien sûr, sont très nombreux. Et on lui reproche aussi, après avoir fouillé chez lui, de détenir le dictionnaire philosophique de Voltaire. Il est donc condamné pour impiété et blasphème. C'est une punition extrême qu'on lui fait subir, alors que nous sommes en 1766, tout de même, au cœur du siècle que nous appelons le siècle des Lumières. L'Église elle-même, semble-t-il, par certains de ses membres, aurait sollicité la clémence royale pour éviter au jeune homme, je rappelle qu'il n'avait que 21 ans, une telle fin. Alors on peut s'interroger quand même hein, sur cette histoire qui a suscité quelques enquêtes a posteriori. Il y aurait eu un crucifix dégradé sur un pont d'Abbeville et le jeune chevalier aurait été accusé aussi sans preuve de cette dégradation qui avait suscité un peu d'émotion populaire, mais on peut penser que cette émotion populaire pouvait disparaître au bout de quelques jours. On sait bien comment nous-mêmes encore aujourd'hui nous avons des émotions très fortes parfois pour ce qui ne relève finalement que d'un fait divers. Mais cet acte sacrilège associé à l'accusation de blasphème portée contre le chevalier semble utilisé par l'évêque d'Amiens à l'époque qui veut jouer aussi des rivalités locales et parisiennes. Et il semblerait que notre pauvre chevalier se soit retrouvé bien malgré lui au cœur d'une affaire qui dépassait très largement la question religieuse. Alors cet évêque aurait vraiment gonflé l'affaire, cherché à impliquer toute une petite bande de jeunes qu'il jugeait très turbulents. Et puis les gendarmes, ayant trouvé chez le chevalier de la Barre le dictionnaire philosophique de Voltaire, bien voilà ce jeune homme tout désigné pour incarner l'ennemi qu'est le penseur des Lumières, et en particulier Voltaire, déjà très célèbre, très irrévérencieux et très attaqué par certains du clergé catholique de son temps. D'ailleurs, il sera ordonné que le dictionnaire philosophique de Voltaire soit jeté au bûcher avec le corps du jeune supplicié, parce que le jugement visait aussi manifestement Voltaire, et pas seulement le pauvre chevalier. Alors Voltaire alertera l'Europe entière en écrivant un texte sur cette exécution, et dans sa correspondance avec tous les autres penseurs européens, Voltaire traitera abondamment cette question du blasphème en espérant justement le faire abolir. Alors, contrairement à Calas, hein, l'affaire Calas, à laquelle Voltaire a aussi participé, qui avait été réhabilité, lui, hein, 3 ans après son exécution, Labarre, lui, ne sera réhabilité qu'en 1793. La réhabilitation n'avait pas été obtenue parce que Labarre avait été présenté comme un déicide, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en prend pour... qui assassine Dieu. Donc il faut attendre logiquement la chute de la monarchie de droit divin et la disparition du crime d'hérésie pour qu'on puisse envisager sa réhabilitation. Alors le chevalier de Labarre est depuis considéré comme une victime de l'obscurantisme et de l'arbitraire, hein, c'est sûr. Il avait sa statue à Montmartre, elle sera enlevée. Elle a disparu, cette statue qui se trouvait en gros au pied de l'actuel Sacré-Cœur. Et les libres penseurs, justement, envisagent de refondre une statue, la statue du chevalier de Labarre, et de la mettre en place symboliquement quelque temps, là où elle devrait siéger. Si la chose vous intéresse, et si vous voulez participer à cette action, vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, la FNLP, pour obtenir de plus amples informations. Voilà donc notre chevalier, dernier condamné en France pour blasphème. Suppression du délit de blasphème, je disais, en 1791. Mais ce délit revient dans une loi de 1819 qui rétablit un délit spécifique d'outrage à la morale publique et religieuse. Donc, sous le Second Empire aussi, les tribunaux vont rétablir le délit de blasphème, c'est-à-dire que dès que le pouvoir monarchique ou un pouvoir impérial l'a souhaité, la loi est reprise pour pouvoir réintégrer ce délit. C'est la Troisième République qui va nous libérer totalement de ce délit de blasphème à travers une loi très importante qui est celle du 29 juillet 1881, qui est la loi sur la liberté de la presse. Cette loi met fin au délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Alors en 1881, cela fait à peu près 10 ans que la République française, enfin, cela fait 10 ans que la République française se construit, que progressivement elle se forge aussi des lois qui vont lui permettre de donner aux citoyens les libertés qu'elle voulait porter. Et ce sujet-là, sur le délit de blasphème et la liberté d'expression, la liberté de la presse, a suscité de vifs débats à l'Assemblée nationale. Un député de Montmartre, lors de ce débat, Clémenceau, le futur tigre, le futur fondateur de ces fameuses brigades, Clémenceau aurait déclaré « Laissez tout attaquer à condition qu'on puisse tout défendre, car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. » Donc voilà son argument pour défendre le fait qu'il ne fallait, en matière de religion, ne limiter l'expression en aucune manière, parce que cela faisait partie, pour lui et comme d'autres républicains, des libertés fondamentales. Alors à l'époque, il y avait déjà un nombre considérable de journaux qui se livraient à la satire, à la critique satirique et à la caricature. Il y a des journaux comme La Lune et La Nouvelle Lune, des journaux comme je pense, le Grelot, par exemple, et puis après, on connaîtra L'Assiette au Beurre, etc., qui sont des journaux extrêmement féroces, hein, qui portent vraiment la critique de manière qui, peut-être pour nos sensibilités aujourd'hui, pourrait paraître étonnante et même choquante, diraient certains. Mais la liberté est vraiment un sujet essentiel pour eux, et cette liberté de la presse va leur permettre véritablement de développer des propos et des dessins anticléricaux, antimilitaristes, et puis aussi politiquement, farouchement, alors républicains, pour les journaux républicains, ou de défendre des idées anarchistes pour les journaux anarchistes, les deux journaux républicains ou anarchistes se retrouvant souvent dans la satire anticléricale. Ils ne se privent donc pas de se moquer du catholicisme, de Dieu, du pape, bien avant Harakiri et bien avant Charlie Hebdo, bien sûr. Même un journal catholique comme Le Pèlerin ne se prive pas de caricatures. Alors je rappelle que la caricature consiste à déformer ou exagérer la réalité pour faire rire ou faire réfléchir. La caricature sera vue par certains aussi comme une forme de blasphème, et ces caricatures s'accompagnent souvent de textes qui décrivent la caricature, de textes qui racontent, qui constituent comme des petits dialogues entre les personnages caricaturés et qui, au sens strict, constituent une forme de discours outrageant vis-à-vis de la religion. Alors, nous, aujourd'hui, il est clair, pour répondre à la question « Le droit français reconnaît-il le délit de blasphème ?» Il n'y a pas de délit de blasphème dans le droit français. Pourtant, une question peut-être se pose, en tout cas elle est posée par certains, sur la frontière entre ce qui relève du débat d'idées et ce qui est une insulte faite aux croyants. Alors pour la loi, les choses sont claires. Les personnes sont protégées, justement, par la loi. La loi punit les injures et les appels à la haine. Elle défend les citoyens et leur liberté de conscience, n'en déplaise aux fanatiques de tous bords. Et donc, il est tout à fait possible de dire ce que l'on pense de la religion. Et on peut le dire encore aujourd'hui en musique. Je vous propose d'écouter une petite chanson récente d'Alain Prest qui s'appelle « Je ne te salue pas ».
Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux, athée, j'habite en bas de ton toit prétentieux, en fumeur de Havane, gros beauf qui te pavane au milieu des charniers avec tes Dobermans. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Pacha, mauvais Sherpa, coupeur de bites en deux. PDG des nuages, vendeur de faux voyages, dealer de poudre aux yeux, metteur de filles en cage. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Le monde, et pourquoi pas, un gosse aurait fait mieux. Fais l'amour à l'atome, doubler la couche d'ozone. Eve, aurais-tu le droit de faire des tartes aux pommes? Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Je suis né à Cuba, quelque part en banlieue. Des bourses à Washington, ton pop et ta madone, l'univers les oublie et Satan les pardonne. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. À mon dernier repas, appelle-moi monsieur. Pas mon fils ni machin, un père j'en ai déjà un, qui arrachait les clous quand on clouait mes poings. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les nues. Si ton plafond s'effondre, épargne un peu le monde. Mais comme moi soient sauvés ceux qui savent leurs aves. En ce qui me concerne, je balance un pavé. Un pavé rouge et bleu dans la vitre des dieux. Ce petit lettre sans clocher, une insulte pour t'approcher.
Alain Prest, je ne te salue pas. Nous parlons aujourd'hui sur RCN dans Raison Gardée du blasphème. Blasphème donc qui n'existe plus en France depuis la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Parce que nous avons bien des lois qui limitent la liberté d'expression et en particulier qui a pour but de protéger les personnes tout en laissant la liberté de critiquer n'importe quelle idée. Alors difficile d'aborder ce sujet sans rappeler en quelques mots le procès intenté contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo en 2007. Vous en souvenez sans doute, il s'agissait d'un dessin de Cabu qui représentait le prophète Mahomet qui disait, évoquant justement le terrorisme, « C'est dur d'être aimé par des cons », satire évidente du fanatisme et pas du tout attaque des croyants. Sincère. Ce procès, donc, pour la publication des caricatures de Mahomet, a permis de clarifier la position des juges. En France, il est possible d'insulter une religion, d'insulter ses figures, d'insulter ses symboles, mais il est en revanche interdit d'insulter les adeptes d'une religion et évidemment interdit d'appeler à la haine contre ses adeptes, quelle que soit la religion en question. Alors la différence semble parfois un peu ténue. C'est ce qui a entraîné un nombre assez conséquent de procès en blasphème, entre guillemets, en fait, sans que le mot soit prononcé. C'est-à-dire que des personnes vont aller en justice pour parler d'injures, de diffamation, de provocation à la haine, justement, de provocation à la violence ou de provocation à la discrimination en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, pourquoi pas, à une religion. Donc il s'agit de trouver parfois des billets pour pouvoir aller devant la justice et demander que soit interdit un journal, un texte, un dessin. Alors ces personnes peuvent le faire, bien sûr. Elles considèrent que la liberté d'expression a été outrepassée et s'emparent des tribunaux. La loi le permet et c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant souvent, c'est que dans ces affaires-là, les personnes disent qu'elles se sentent offensées et que c'est à ce titre qu'elles vont recourir à la justice. Le problème, c'est que l'offense en soi, pas plus que le blasphème, ne peut avoir de reconnaissance juridique. Il y a un très bon article d'un philosophe, Paolo Flores d'Arcaes, qui a été un article publié en 2015 dans la revue Philo Magazine, et qui s'appelle « Plaidoyer pour la liberté d'offenser ». Il rappelle par exemple que le pape François avait déclaré, alors je n'ai plus la date de cette déclaration, « On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres, on ne peut pas la tourner en dérision ». Et lui, justement, réagissait à cette affirmation du pape François en disant « Mais qui décidera de ce qui relève de la critique, d'une part, et de l'offense, d'autre part ?» La notion d'offense, juridiquement, ne peut pas être définie. Si le critère de l'offense, c'est-à-dire « moi, je me sens blessé par ce que j'ai lu, par ce que j'ai entendu », devient vraiment une règle pour décider de la liberté d'expression, c'est en fait la susceptibilité qui tranche. On est plus ou moins susceptible aux critiques qui touchent en nous ce qui nous paraît sacré. Or, la liberté, elle trouve une limite, ma liberté trouve une limite dans la liberté de l'autre. Et ce n'est pas ma susceptibilité qui, aux yeux de la loi, peut faire fonction de critères. Ce n'est pas possible. C'est vraiment trop subjectif. Après, chacun va se croire en droit de fixer les limites de la censure, ce qui serait quand même assez grave et finalement, si nous y réfléchissons, bien sûr, tout à fait impossible. La loi est là pour nous permettre de nous exprimer librement dans le cadre qu'elle a fixé. Elle écoute les plaintes, mais elle ne peut ni prendre en compte nos susceptibilités, ni ce que nous pouvons juger offensant. Voilà pour ce sujet aujourd'hui. Sachez qu'en Europe, il existe encore quelques pays qui reconnaissent le blasphème et qu'en France, le délit n'a été supprimé définitivement en Alsace-Moselle que depuis quelques temps. Il figurait encore dans le droit local. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Raison Gardée. Merci Rémi à la technique et à très bientôt.